La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1, vous le savez, vous êtes habitués maintenant jusqu'à 19h. Les grandes voix sont là pour décortiquer l'actualité de ce mardi autour de vous. Nathalie Lévy ce soir, Ève Roger, chef du service Société d'Europe 1, Mickaël Darmon, éditorialiste politique, et Emmanuel Duteil, chef du service Économie d'Europe 1. Bienvenue, bonsoir les grandes voix.
Bonsoir Nathalie.
C'est cool, hein, magique. Bon, je suis ravie de vous retrouver. Alors, on a énormément de sujets et de gros titres avec vous hein, à raconter, à expliquer à nos auditeurs et à, sur lesquels on peut avoir votre point de vue. Bien sûr, on va parler du plan auto avec vous longuement, Emmanuel Duteil, et puis avec vous tous, mais comme on en a déjà beaucoup parlé, j'aimerais, avec vous, Mickaël Darmon, me pencher sur le cas Buzyn, parce que le 28 juin, eh bien, ce sera ce second tour, dont on voit les contours se définir, voilà. Et voilà, on cherchait Agnès Buzyn. Elle était à l'hôpital apparemment en blouse blanche, elle est réapparue, et elle est déterminée.
Oui, déterminé à terminer la campagne, après une hésitation, après avoir annulé une réunion, après avoir laissé souvent ses colistiers sans réponse. Elle est déterminée à aller jusqu'à la fin, sachant pertinemment que ce sera à l'image, au fond, pour la REM de ce qui se passera sur le territoire, c'est-à-dire ce sera pas une bonne séquence électorale, c'est le moins qu'on puisse dire. Ce qui est intéressant surtout, en réalité, c'est ce qui se passe depuis plusieurs jours, c'est-à-dire la tentative de créer des alliances dans les arrondissements entre villanistes et macronistes, si je puis dire, officiels. Puisqu'il a quand même été exclu du mouvement présidentiel, Cédric Villani. Mais il y a une forte pression du terrain qui demande à Cédric Villani, qui n'est pas très, très enthousiaste à cette idée, mais qui apparemment est obligé de s'y rallier, parce que les militants demandent qu'il y ait quand même un rapprochement pour entrer au Conseil de Paris de manière unie. Donc c'est peut-être, c'est d'autant plus intéressant qu'en plus il fait partie de ce nouveau groupe parlementaire qui vient d'être créé. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a ce phénomène-là. Agnès Buzyn,
c'est un épiphénomène en fait.
Je pense qu'elle va...
Son avenir
en politique est assez compromis.
Ouais.
C'est-à-dire que maintenant, à la sortie de la municipale, il y a quand même les commissions d'enquête et
évidemment.
Les plaintes.
Hein. Mais juste quand même, on se sort d'une telle étape pour Emmanuel Macron, parce qu'apparemment, il est dans une colère noire, il l'écharpe hein, à tout bout de champ. On est presque dans une situation... Enfin, c'est une situation ubuesque.
C'est-à-dire
d'avoir
qu'il y a
une candidate avec qui on est en désaccord sur tout.
Et... Macron, il a déjà enjambé les municipales. Hein. Il sait que c'est terminé lui, qu'il est déjà en train de préparer les autres élections. C'est pas,
donc on laisse faire, on limite la casse et on tourne une page.
La REM n'aura pas réussi son implantation territoriale, on le verra bien quand on aura tous les résultats. Et donc maintenant, il est quand même concentré sur les autres scrutins. Plus déterminant sur le plan politique, hein, régional et départemental, et bien sûr la préparation de la présidentielle. Donc, les municipales sont déjà derrière lui.
D'accord. Alors, ce qui est devant lui, en revanche, c'est cette application, Ève Roger, Stop Covid, le week-end prochain, peut-être. Déjà, on l'aura hein, sur nos téléphones.
On pourra le télécharger. Alors, ce qui est frappant, c'est qu'on l'avait tous enterré ici. Hein. Je me souviens à peu près il y a un mois, on l'avait enterré. Et je suis assez impressionnée, en réalité, parce que Cédric O, qui est donc le secrétaire d'État au numérique, a surmonté absolument tous les obstacles. Ouais. C'est-à-dire l'obstacle technique. Je vous avais parlé d'Apple, Google. Je ne sais pas comment il l'a fait, mais enfin, il s'en est sorti. Les opposants au Parlement, on en parlera peut-être avec Mickaël, mais visiblement, il y arrive. La guerre entre industriels, il était agonie, pareil. Et puis la CNIL.
Ouais,
franchement, la vie de la CNIL aujourd'hui, c'est vraiment sur des détails. Ouais. Alors aujourd'hui, moi, la question que je me pose, c'est il a vraiment surmonté tous les obstacles, mais est-ce que ça va servir à quelque chose?
Voilà, c'est exactement la question que je me posais.
Tout ça pour ça.
Tout ça pour ça. C'est la question, parce qu'on voit les brigades sanitaires de l'assurance maladie que sont en train d'attendre de téléphone pour d'appeler des cas contacts, et puis il n'y en a pas tant que ça. Donc est-ce que cette application, ça sera effectivement tout ça pour ça? Mais en tout cas, je ne sais pas ce qu'en pense Mickaël, mais que Cédric O s'en est sorti haut la main.
Oui, ça en est sorti effectivement au la main, si je puis dire, mais il a été très très secoué par quand même son patron, hein, qui l'a quand même remis effectivement au travail de manière très sèche, comme il sait faire, hein, Macron, quand les choses ne fonctionnent pas. Et la seule façon de voir s'il s'en est tiré au la main, c'est s'il sera présent dans le prochain gouvernement.
Bon, voilà, ça sera le test, déjà. Évidemment, le plus efficace
enfin,
qu'il
déjà
soit.
Demain, on est sûr que le vote va être positif.
Oui, c'est une formalité maintenant. Il y aura le débat habituel, voilà. Mais enfin, comme vous l'avez dit très justement, au fond, on a le sentiment que ce débat est déjà... sorti quoi, c'est-à-dire que on est en train de travailler sur le déconfinement, chacun fait attention à sa manière et on n'est pas dans cette logique de dire c'est une application qui va nous sauver.
Alors on avance et on va parler avec vous Emmanuel Duteil dans une seconde de ce fameux plan automobile. On connaît tous les éléments, on a tous les montants désormais. Vous allez nous dire ce que vous en pensez dans une seconde.
Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe avec Nathalie Lévy, entourée des grandes voix jusqu'à 19h. Emmanuel Duteil, l'homme du jour, ou presque, avec Emmanuel Macron dans une auto. Ce plan auto, évidemment, allez, on y est arrivé. Emmanuel Macron vise la production d'un million de voitures propres en France d'ici 2025. Il y a des primes entre 2 et 7 000 euros pour des voitures vertes. Ce plan, 8 milliards, il y est allé franchement ?
8 milliards, ça veut strictement rien dire, mais il y a quand même des incitations extrêmement intéressante,
significative.
Très significative. C'est historique hein, ce qui se passe. Il a annoncé ce matin la plus grande braderie, c'est-à-dire que même les soldes, logiquement, ne représentent pas ce qu'il a annoncé aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'il a annoncé que les 200 000 premiers clients pourraient bénéficier d'une prime à la conversion largement améliorée. C'est quoi cette prime à la conversion ? Vous avez un véhicule pas très propre, vous venez acheter quelque chose d'un peu plus propre, c'est vrai pour les voitures électriques, c'est vrai pour les hybrides rechargeables, et c'est vrai pour l'essence, pour le diesel, ce qu'on avait déjà esquissé ici même il y a de ça quelques jours. Donc c'est extrêmement important, mais il l'a calibré, et ça, personne ne s'attendait à ça, aux 200 000 premières voitures. Alors, rassurez-vous, si vous avez envie d'acheter une voiture là, vous avez quelques semaines, quelques mois pour y aller. Je vais vous donner une petite indication, 200 000, on vend environ, quand tout va bien en France sur une année, 2 millions de voitures. Donc vous voyez, 200 000, c'est beaucoup. En revanche, ça montre à quel point les parkings des concessionnaires en ce moment sont pleins. Imaginez qu'il y a 400 000 voitures en ce moment qui ne trouvent pas preneur. Donc c'est vraiment une offre d'urgence pour désasphyxier les constructeurs automobiles. Deuxième point effectivement très important, la voiture électrique, il veut qu'en 2025 on en produise effectivement et vende 1 million. Il veut qu'on devienne les champions du monde, ce qui est très marrant. Non, c'est pas du tout marrant, mais ce qui est très intéressant dans son discours, voilà, ce qui est très ambitieux, le mot est largement mieux choisi. Il fait comme si la Chine n'existait pas. Et ça, c'est un point qui moi me choque un peu, parce que certes cette course elle est rigolote à mener, mais ça va être impressionnant. Bah, si on la gagne, alors là, je peux vous dire on aura de quoi bomber le torse.
Non, mais attendez, on est des petits joueurs. On sait très bien que le combat.
On est complètement des petits joueurs. On a complètement perdu la bataille de la batterie pour le moment.
Mais
on y va. Alors, peut-être qu'on vise que la deuxième place, qui serait en soi déjà pas mal. Mais bon.
Il y a les Allemands, non, aussi, après la Chine, non.
Non, parce que nous, on est avec les Allemands quand même.
C'est
donc
vrai,
on va dans une offre globale. Mais bon, voilà.
Mais ça fait la voiture à combien, alors, finalement?
Bah, ça dépend le vote.
C'est concret.
Non, les 200 000, là, je peux l'avoir
très, très
à combien la voiture
véhicule dans votre vie. Alors, je vais vous donner une petite indication qui, je suis sûr, va vous intéresser beaucoup. Ça va... Allez, si vous prenez une voiture d'occasion déjà correcte, à 6-7 000 euros, vous avez déjà une voiture, mais ça peut aller très très haut, vous savez, un projet. Donc ça veut strictement rien dire. Là, le prix moyen, je crois, d'une voiture, et là je ne veux pas dire d'annerie, je crois qu'on est aux alentours de 20-25 000 euros, si je ne dis pas d'annerie en France, ou un petit peu moins quand même. Donc c'est quand même des aides qui sont notables, puisqu'on va, comme le rappelait Nathalie, jusqu'à 7 000 euros.
Alors ce que me disait le patron de Toyota France que j'avais tout à l'heure, il me disait quand même que ça ne visait pas tellement les foyers modestes. C'était plus soit du très modeste, soit de l'entreprise, mais pas tellement...
Non, c'est du modeste et très modeste. Et effectivement, vous avez raison également d'insister là-dessus, puisqu'on oublie souvent quand on parle des ventes de voitures de ce pan, mais s'il n'y avait pas ça, on ne s'en sortirait pas, c'est les flottes d'entreprises. Et effectivement, c'est grosso modo une voiture sur deux. Hein. Et Renault, par exemple, est très dépendant de ce marché entreprise. Donc là, typiquement pour l'acquisition de voitures électriques. Et on sait que c'est plus simple pour le marché entreprise de passer, parce que cette barrière psychologique des 300-400 km pour pouvoir rouler avec une voiture électrique, elle est moins vraie en entreprise, parce que généralement vous êtes, je sais pas moi, un visiteur médical ou vous êtes un représentant, vous avez beaucoup rouler, vous pouvez tenir sur la journée.
Alors Michael Darmon, vous vouliez ajouter ?
Oui, à propos d'asphyxie des parkings, cette mesure, c'est aussi pas terrible pour le climat, hein, disent les écologistes, parce que bien évidemment, tout le monde va se précipiter sur les voitures, entre guillemets, à l'ancienne, essence, même si elles sont moins polluantes.
Et il a essayé d'y répondre, vous avez vu, il a dit, si on achète une voiture qui est moins polluante que celle qu'ont les gens, ce sera toujours quelque chose de bien pour l'écologie. Je ne sais plus comment était faite la phrase, mais un truc comme ça.
C'était une pirouette, parce que la réalité, c'est que c'est quand même...
Mais vous avez raison.
Bon, je reviens vous voir, Michael Darmon, Eve Roger, parlez-nous d'une bonne nouvelle. D'une nouvelle, en tout cas, étude sur l'immunité, qui est plutôt de nature à nous rassurer.
Ah bah oui, on l'a appris aujourd'hui. Alors on savait déjà qu'on avait une immunité quand on avait eu les formes sévères de la maladie. Et cette nouvelle étude de Pasteur et du CHU Strasbourg nous dit qu'on a aussi l'immunité si on a une forme légère de la maladie. C'est-à-dire que si on a eu des faibles symptômes, eh ben on est quand même immunisé. On fabrique des anticorps maintenant qui sont, qu'on dit neutralisants, c'est-à-dire protecteurs. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour tous ceux qui
sont... Mais c'est temporaire, cette immunité, non ?
Alors, pour l'instant... Pour l'instant, dans leur étude, ils ont étudié sur 160 personnels soignants du CHU. Mmh. Il y a eu une immunité, on a vu le maximum jusqu'à 40 jours, mais on ne sait pas, après, il faut continuer les études pour savoir si 40 jours, ça fait à peu près 5 semaines, mais ça pourrait être quand même quelques mois. Ils prennent l'exemple du SARS-CoV-1, qui est un cousin du Covid-19, et où l'immunité est plutôt entre 1 an et 2 ans, ce qui est déjà pas mal. Hein. Bon. Donc en tout cas, il reste encore la question de la contagion, mais on y reviendra.
Bon, alors effectivement, on y reviendra. On va parler aussi de l'hydroxychloroquine dans un petit instant, suite du feuilleton. Hein. Mickaël Darmon, juste avant de s'arrêter dans une seconde, Xavier Bertrand, j'imagine à peu près sa tête là en ce moment. C'est à couteau tiré avec Emmanuel Macron, parce que c'est sur place que se rendait le président de la République. Tout à l'heure, là, il y a quoi, 3 heures de ça,
oui,
pour parler auto. Pas invité, Xavier Bertrand.
Non, pas invité, c'est la phase 2, hein, saison 2 après Montcornet, souvenez-vous, l'affrontement le jour de l'hommage au général de Gaulle, lorsque Xavier Bertrand a refusé de retirer son masque, alors que l'Élysée demandait à tous les présents de retirer leur masque. Il a affronté et du regard, et avec un petit échange à Gredoux, le président de la République.
C'est pour ça qu'il n'a pas été
sur ce thème-là. Et en réponse, il n'est pas invité. officiellement, c'est parce que c'est... on restreint et que le soi-disant la région ne finance pas, ce qui est entièrement faux. Le plan automobile, c'est de la compétence économique et de compétence de la région. Mais bien évidemment, c'est le fait d'assumer maintenant, à l'air libre, ce qui se passe en coulisses depuis plus d'un an, c'est-à-dire un affrontement Macron-Bertrand. Et quelque part, en faisant cela, et ben, du côté chez Bertrand, on dit il vient de le désigner comme adversaire.
Comme adversaire. On fait de la politique,
On fait de la politique
dans une situation de crise.
On est rentré dans l'ère présidentielle. Voilà. Ça va être 2022, en temps politique, c'est 10 minutes. Hein. Donc le temps de préparer, le temps d'organiser, de positionner, d'envoyer les messages à son camp, de s'organiser, de faire les projets.
Mais il le fait bien. Xavier Bertrand, pour le coup, il la joue à l'envers, dans le sens où il dit voilà, on devait être main dans la main.
La seule manière,
on est dans
juger,
une région
je
chez moi.
Que tout à l'heure, la seule manière de bien juger et c'est de juger s'il a bien fait, si un jour il est élu. Voilà. pour l'instant, il travaille, il se positionne, il envoie des messages à la droite en disant voilà, moi j'ose alors que vous n'osez pas, les putatifs, Pécresse, Wauquiez, Baroin, vous n'osez pas, moi j'y vais. Et donc, il envoie un message aussi au camp de la droite.
Bah, bien sûr.
On verra bien. Le match commence et il va être très long.
Ce qui était intéressant, là encore, c'est qu'il a cité 4 fois Bruno Le Maire. Oui. Merci Bruno Le Maire, merci le ministre de l'Économie et des Finances.
Oui, là aussi, les hommages et les remerciements en général, c'est faut toujours s'en méfier.
Bon, à tout de suite, les grandes voix. On se retrouve dans une petite seconde sur Europe 1.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy, entourée des grandes voix, jusqu'à 19h. Emmanuel Dutheil, il y a une enseigne que tout le monde connaît hein, un peu partout en France, c'est la Halle. Et le groupe va mal.
Oh bah plus que encore. Va mal, oui. Et en plus, ce soir, il y a coup double malheureusement, puisqu'on a appris également que Camailleux, autre groupe bien connu, là aussi, il y a 4000 collaborateurs du côté de Camailleux. Là aussi, placement redressement judiciaire. Et donc effectivement, aujourd'hui, la Halle, pareil, redressement judiciaire.
C'est 6000 personnes en France.
La Halle, c'est énorme, un peu moins, je crois, 5000. Oui, mais vous avez raison, quasiment 6000, 5008 si je ne dis pas de bêtises. Qu'est-ce qui se passe du côté de la Halle? C'est un groupe qui se porte très mal depuis longtemps, il y a eu plein d'erreurs stratégiques. Ils étaient un tout petit peu en train de se redresser. La crise les a laminés. Du coup, ils vont être vendus. Il y a 7 offres qui ont été déposées pour la Halle, dont la principale offre qui reprendrait 60% des collaborateurs par le groupe Beaumanoir. Si je vous dis ça comme ça, ça ne vous dira rien. Mais si je vous dis Morgane, Cash Cash, Bonobo, tout ça, c'est des marques quand même assez
public.
Connues. En tout cas, aujourd'hui, quand on voit la situation de la Halle, quand on voit la situation de Camailleux, ça envoie un signal dramatique. C'est-à-dire
mais l'hécatombe, elle a déjà commencé avec Conforama et tout ça.
Mais si on reste sur le secteur de l'habillement, ça allait très mal avant. Et cette crise a tout accéléré. Mmh. Elle a accéléré le basculement vers Internet. Elle a accéléré le fait qu'on ne veut plus aller dans les magasins. Elle a accéléré le fait que ces marques sont mal positionnées face à des Zara, face à des H&M, face à des Primark, face même à ceux qui ont un petit peu plus d'argent, au Gap, Gap en même temps ça va pas très bien, mais Uniqlo ou ce genre de marque. Donc c'est un problème stratégique. Là, on voit que la crise est venue accélérer. Et quand on a ici, quelques semaines de cela, parlé du fait qu'il y aurait des licenciements et des plans sociaux massifs dans des pans entiers de l'économie, on en voit malheureusement les premiers. On a vu aussi dans les médias, Altice, la maison mère de BFM Télé et ce genre de médias qui a aussi annoncé une réduction importante quand même d'effectifs. Donc il faut s'attendre comme ça à des...
Nos camarades qu'on salue, bien sûr. On va continuer avec vous, tous nos camarades dans ce métier, j'entends par là. l'hydroxychloroquine avec vous, Ève Roger. Ah là là.
Alors on peut dire là...
On n'est pas au bout hein, dans cette affaire-là.
Il n'y a pas que la Halle qui va mal. Moi je pense que ce soir, Didier Raoult, il ne va pas très bien non plus. Hein. Mais disons que c'est compliqué d'avoir raison face au monde entier. Et là, c'est vrai qu'on a eu l'OMS hier qui dit arrêter les essais cliniques. On a eu aujourd'hui le Haut Conseil de Santé Publique qui dit on arrête les prescriptions en hôpital. Et puis maintenant, l'Agence du médicament française qui va encore plus loin.
À qui va-t-il s'en prendre d'ailleurs cette fois?
Alors c'est ça, c'est la question. C'est est-ce qu'on continue comme à cette espèce de surenchère ou est-ce qu'on s'arrête? C'est vrai que l'Agence du médicament dit il y a des essais cliniques en cours et il faut, en France, il y en a 16 avec de l'hydroxychloroquine et ils disent il faut les arrêter. En tout cas, il ne faut plus inclure de nouveaux patients à qui on donne de l'hydroxychloroquine parce que c'est vrai qu'il y a quand même des vies en jeu. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont morts à cause de l'hydroxychloroquine. Donc c'est vrai qu'on plaisante, mais c'est les conséquences peuvent être dramatiques. Et donc c'est vrai qu'on attend maintenant la réponse de Didier Raoult. Et selon mes informateurs, il paraît qu'il se montrera aujourd'hui beaucoup plus prudent.
Ah tiens.
Peut-être.
Ah, il était temps. Mais bon, on va voir. On n'est pas à l'abri de nos surprises hein, voilà, avec Didier Raoult.
C'est-à-dire quoi, plus prudent? C'est qu'il reconnaît que peut-être que son protocole n'était pas le bon.
Et il a eu une réaction un peu violente hier en disant c'est foireux, c'est peut-être que...
La presse médicale, etc., il tape en fait sur tous ses détracteurs au fond.
Et voilà, bon, avec,
là il serait peut-être plus sur la route.
Avec quelques insultes, disons que peut-être que là il dit attendons de voir peut-être que les études effectivement...
Et Michaël Darmon, un dixième groupe à l'Assemblée, la majorité un peu plus éparpillée façon puzzle.
Oui, on le disait déjà la semaine dernière, c'est un peu l'onde de choc de ce séisme donc qui avait provoqué le neuvième groupe. Hein, vous savez, dans un séisme, il y a toujours la réplique. Hein, et la réplique, eh bien, c'est de l'autre côté, c'est effectivement les macronistes de droite, on va dire, hein, pour faire vite, qui eux s'organisent en groupe, ce qui montre bien que la République en marche, elle aussi, rentre dans un moment très très compliqué, une sorte de d'heure de vérité. On dit, c'est même money time, on dit ça dans le monde du business, c'est-à-dire c'est vraiment le moment où là se cristallisent des processus qui étaient déjà à l'œuvre depuis longtemps, c'est-à-dire l'incapacité de pouvoir passer des alliances, la difficulté de pouvoir gérer un groupe à 300 avec ce concept du en même temps qui commence à devenir de plus en plus compliqué à appliquer, ou en tout cas auquel il faut donner vraiment une réalité. Et on voit bien que ça se prépositionne une fois de plus pour le paysage politique de la fin du mandat, voire de la future une future éventuelle recomposition gouvernementale qui pourrait aller
c'est agir dans l'ancien
UDI
faut juste rappeler au départ est présidé par le ministre de la culture Franck Riester
oui mais qui est allé au gouvernement sans prévenir ses troupes à l'époque c'est ce qu'on appelle les macronistes de droite globalement qui sont pas des critiques du gouvernement, mais qui doivent maintenant, au fond, s'organiser maintenant en chapelle, voire en archipel. Alors les plus méchants disent, c'est plus la République en marche, c'est la République en miettes.
Évidemment.
On l'avait vu avec Gérald Darmanin déjà ce week-end. Hein,
absolument.
Bon, merci beaucoup les grandes voix.
Merci.
C'était un plaisir, comme chaque soir. À très vite. Vous serez demain avec Sébastien Krebs, tiens d'ailleurs.
À demain.